Déjà, merci à vous d'être là à cette heure tardive.
Ouais, j'en veux pas avec de l'apéro.
C'est ça. C'est fort courageux.
C'est très courageux. Bon, on va peut-être structurer cette rencontre un peu différemment des précédentes. Il y en a une qui était plus didactique, il y en a une autre. Bon, Arleston vous a expliqué à peu près comment il travaillait. Bon, maintenant, Fabien, on va peut-être jouer. Si vous avez des demandes précises, on va démarrer peut-être par des questions. Puis s'il n'y en a pas, peut-être que Fabien va vous raconter.
En fait, ce que je voulais savoir, c'était, si tant est que ce soit possible, savoir à peu près les profils des gens qui sont dans cette salle. Est-ce que c'est pure curiosité de gens curieux qui veulent savoir comment on parle scénario, ou est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des aspirations professionnelles? J'ai plutôt posé cette question-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui écrivent ou qui aspirent à écrire? Oui, quelques-uns. Donc on peut avoir des questions qui seront peut-être un peu plus pointues. Et dans ce cas-là, ça ne me dérange absolument pas de ne pas suivre un cursus strict de ce que j'ai prévu de dire ou pas, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de...
On n'a pas...
ça peut être vraiment répondre à des questions précises. Au contraire, moi, ça m'intéresse aussi de pouvoir répondre à vos attentes, surtout à 19h39, 43, que dis-je. Donc, vous avez fait l'effort d'être ici, vous méritez des réponses adaptées, du sur-mesure. Et puis sinon, je peux être complètement en roue libre, c'est aussi tout à fait possible parce que je suis extrêmement bavard. Donc, tout est possible. Déjà que je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent écrire, donc je vais peut-être orienter parfois mes réponses ou ma façon d'évoquer mon parcours de cette manière-là. Je vais peut-être commencer par me présenter, en fait, tout simplement, pour ceux d'entre vous qui seraient venus ici à l'aveugle. Ça peut paraître
il y en a,
fou,
non,
parce qu'avec ma réputation... c'est très bien. Donc, je m'appelle Fabien Wellmann, je suis scénariste essentiellement de bande dessinée depuis 1998. J'ai un tout petit peu touché à l'animation et au cinéma, j'y reviendrai ponctuellement, parce que ça présente des différences par rapport à l'écriture de scénarios de BD. Et pour la faire courte, je voulais être auteur de bande dessinée depuis mon enfance, à partir de, je pense, 7 ans. J'ai eu la certitude que ce serait un métier parfait pour moi, juste après potier, qui était quand même ma toute première envie d'enfant. Pendant 2 semaines, j'ai voulu être potier, donc c'est pas impossible que je le fasse un jour. Et puis, à un moment donné, juste après potier, c'était auteur de BD. Et je n'envisageais pas scénariste de BD, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. C'était auteur qui fait de la bande dessinée. Et puis, j'ai fait un très long détour avant de le faire. C'est-à-dire que c'était un désir d'enfance, très clair. Simplement, entre-temps, j'ai été rattrapé par une anxiété galopante qui caractérise pas mal mon personnage en général et ce que j'étais enfant, entre autres. À savoir que j'ai commencé à me poser des questions d'adolescent puis d'adulte qui étaient des mauvaises questions, mais enfin, voilà, elles étaient là quand même. C'était de me dire, est-ce que vraiment c'est une si bonne idée de faire un métier comme celui-là? C'est-à-dire que c'était évident quand j'étais petit que ça serait ma place. Et ensuite, il y a eu le moment de choisir ma voie. Et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et entre autres, de me dire, mais est-ce que c'est pas complètement idiot d'aller dans un métier comme ça? Est-ce que c'est pas réservé à poignée de personnes qui ont du talent, et moi, qu'est-ce qui me prouve que j'en aurais? Donc j'ai commencé en fait à flipper, vraiment. Et qui plus est, il devait y avoir quand même un background familial qui n'a pas dû aider. Je veux dire, par là, je pense quand même pas que spontanément tout le monde hurlait de joie quand je commençais à dire que j'allais être auteur de bande dessinée dans la famille. Ça veut pas dire qu'ils aimaient pas la BD, au contraire, j'ai des parents qui étaient très fans de BD. Mais de là à imaginer en fait gagner sa vie avec, c'est autre chose. Donc je pense que j'ai intégré en grande partie, en fait, ces craintes-là. Je vous en prie, vous pouvez...
Excusez-moi.
Non, mais il n'y a pas de mal. Mais c'est vraiment très passionnant aussi, cette deuxième partie. Ah, trop tard. C'est le drame de ma vie, ça, d'essayer de capter un public qui s'enfuit constamment. Surtout celui d'Arleston. En fait, donc, j'ai été rattrapé par ces angoisses-là. J'en fais part, c'est pas tellement pour étaler mes états d'âme psychiques vis-à-vis de vous. Enfin, je veux dire, ça vous intéresse finalement assez peu, mais je pense que c'est instructif pour ceux d'entre vous qui auraient des doutes par rapport au fait d'avoir envie d'écrire, pas écrire. C'est dans ce sens-là que je pense que c'est intéressant de voir les louvoiements par lesquels on peut passer. Donc moi, en fait, on va dire qu'à partir de l'adolescence et à partir du moment où on pose la question au lycée, surtout de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc., j'ai commencé à me dire que ça n'est pas raisonnable de faire de la bande dessinée. Parce que ça n'arrive qu'à quelques personnes. Qui plus est, si, imaginons que je fasse une école de dessin, si je ressors avec un diplôme, ça ne veut pas dire que j'ai du talent. ce qui cela dit est vrai, là-dessus je me trompais pas complètement. Un diplôme en dessin ou un diplôme en scénario n'assure pas derrière qu'on ait du talent pour quoi que ce soit. Simplement, c'est rassurant, ça veut dire que peut-être on va dans la bonne direction, etc. Et surtout, on a quand même une formation. Mais moi, j'avais tellement peur de ça, de me dire, je vais peut-être sortir avec un diplôme de dessin, de je ne sais pas quoi, mais je ne serai pas forcément talentueux, que je me suis dit, ne prenons pas ce risque, et soyons raisonnables, et j'ai fait une école de commerce. C'est vous dire un peu à quel point j'ai voulu être raisonnable. Alors, il y avait quand même une vague envie de me rattraper aux branches derrière, dans le sens où j'avais quand même plus ou moins prévu qu'après l'école de commerce, je ferais un cursus spécialisé dans les sciences du jeu et du jouet, parce que je m'étais rendu compte que ça existait. Et je m'étais dit que si j'étais pas auteur de BD, un autre truc qui me plairait bien, ça serait de créer des jouets qu'ensuite on pourrait confier à des gamins et que ces gamins se feraient leurs propres histoires. Donc le point commun était un peu là. Donc j'ai fait des stages chez Mattel, j'ai fait des stages chez Playschool, des choses comme ça. Ça s'est plutôt pas mal passé. Simplement, de plus en plus, ça m'attirait vers le marketing. C'est des gens qui me disaient, mais fais du marketing. En fait, fais une voie connue. Ça rassurait tout le monde de pouvoir me dire, fais ce type de formation parce qu'elle existe déjà. Une formation en bande dessinée. En tout cas, les gens que moi je connaissais, ils n'ont pas su m'orienter vers ce qui existait. Il s'avère qu'il y a quand même pas mal de formations possibles en dessin. Il y a des très bonnes écoles. Il n'y a effectivement pas de formation en scénario. Ça, c'est une spécificité française. C'est qu'on n'estime pas que ça soit une matière à part entière. On est formé au scénario dans le cadre d'une formation cinéma ou dans le cadre d'une formation BD, mais il n'y a pas d'école de scénario, contrairement aux Américains. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est un fait. Donc, j'ai fait mon école de commerce. Je me suis rendu compte, en ayant mon diplôme, que je l'avais aussi fait en grande partie pour mes parents. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme et que tout le monde était content, là, j'ai été bien dépressif. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, d'accord, j'ai fait ça pour me rassurer, mais je vois maintenant que quand j'ouvre les journaux où il y a des annonces, il n'y a aucun des boulots que je suis censé savoir faire qui me plaise. Je m'étais orienté dans le marketing, mais ça me tombait des mains, vraiment. Et là, j'ai commencé à me dire, j'ai peut-être commis une erreur en repoussant quelque chose qui me tient à cœur, mais j'avais toujours peur d'échouer. C'était ça qui était super important, qui était le contrepoids, en fait, de... J'avais fait tout ça pour être rassuré et parce que j'avais peur d'échouer. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un diplôme en poche, mais qui va très vite perdre de sa valeur, parce qu'en réalité, si on ne cherche pas du travail directement après l'école de commerce, ça commence à poser question aux employeurs. Et en même temps, j'ai cette passion dévorante pour la narration. Entre-temps, je m'étais aussi pris de passion pour le cinéma. J'avais envie d'être aussi rockstar, metteur en scène de théâtre. Je voulais faire des comédies musicales. Enfin, ça c'était quand même assez vaste. Hein. Mais la BD était quand même très présente. Et j'ai profité... en fait, je me suis posé une seule question, c'est de me dire, est-ce que je préfère tenter le coup et me planter ou me demander toute ma vie si j'aurais dû tenter? Et parce que j'avais deux, trois exemples familiaux en tête, j'ai préféré opter pour « je vais tenter le coup ». Et si je me plante, c'est pas très grave, au moins j'aurais tenté. J'avais aussi des expériences personnelles qui me montrent qu'il vaut mieux tenter quelque chose et échouer que de se dire toute sa vie « j'aurais peut-être dû essayer ». C'est la pire des choses possibles. Donc, je me suis dit « bah allez, je mets à profit mon service militaire » parce qu'à l'époque, ça existait encore. Je suis de 72, hein, voilà, pour situer à peu près, donc j'ai 41 ans. Et donc j'ai profité d'un service militaire en tant qu'objecteur de conscience. J'étais dans une troupe de théâtre où j'étais administrateur de la troupe, du coup, c'est-à-dire que je gérais les fiches sur SAF. Je me suis dit, bah déjà je vais me rapprocher d'un truc un peu culturel. J'ai vu que c'était encore pire, j'avais l'impression d'être un mec gourmand qui doit bosser dans un magasin de pâtisserie et qui ne doit pas toucher aux pâtisseries, c'était affreux. Je les voyais en train de s'éclater, écrire des trucs, et puis moi je faisais les fiches, quoi. Donc je me suis dit, allez, je tente le coup. Et j'ai eu la chance d'être logé nourri par mes parents à cette époque, et pendant l'objection de conscience, et pendant les 2 ans qui ont suivi, pendant lesquels je leur ai dit, écoutez, je dois essayer de le faire, sinon je m'en voudrais toute ma vie. Donc ils ont entendu ça, et quelque part, j'avais payé le tribut social. Je veux dire, par là, je m'étais tapé 2 ans de prépa, 3 ans d'école de commerce, j'avais leur putain de diplôme. On pouvait me laisser tranquille au moins 2-3 ans. Je crois qu'ils ont perçu quand même cette forme d'agacement qui pouvait être le mien, de dire, faut pas que je passe à côté d'un truc. Maintenant, est-ce qu'ils croyaient que je pouvais réussir? Honnêtement, mon père, pas trop, je crois. Même s'il se trouve que c'est devenu mon premier fan après, mais sur le moment, je crois qu'il n'y croyait pas. Simplement, il ne m'a pas empêché de le faire. Donc pendant 2-3 ans, pendant l'objection de conscience, plus un an, j'ai écrit, et surtout, je me suis mis justement à la bande dessinée seulement. Spontanément, c'est ça qui est revenu. Et d'autre part, j'ai laissé tomber le dessin. Donc, je me suis vraiment dit à ce moment-là, j'aurais dû faire une école de dessin, c'est trop tard. Tant pis, je laisse tomber ça, et je vais faire la partie facile. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Hein. Je vais faire la partie facile, c'est écrire une histoire. Parce que écrire une histoire, tout le monde sait le faire. raconter une histoire, tout le monde sait le faire. Contrairement à un dessin. C'est pour ça d'ailleurs que les gens sont souvent, c'est vrai des éditeurs, ils ont plus de mal à juger la pertinence d'un scénario très rapidement, alors qu'un dessin, c'est facile de le faire très rapidement. On vous présente un dessin, la plupart des gens ici seraient capables de dire il est bon ou il n'est pas bon. Et un éditeur encore plus, parce qu'il a un coup d'œil. Juger un scénario, il faut vraiment le lire complètement pour se rendre compte de s'il est bon ou pas. Un scénario peut être basé sur un cliché au départ, sur un truc qu'on a déjà vu un millier de fois. On pourrait citer je ne sais pas combien de films qui sortent chaque année qui sont basés sur des clichés. Ça n'empêche pas parfois que ces films soient réussis. Ça veut dire que lire un scénario demande un œil et une façon de rentrer dans le récit qui est beaucoup plus compliquée. Et c'est vrai aussi, pour le tout venant, bah tiens, en parlant du tout venant, tu peux te joindre à nous hein, si tu veux.
Non, j'en sors.
Ah, oui, c'est vrai que du coup, tu es un peu blasé, mais tu as laissé ton iPad derrière. Merci. Je ne sais pas encore si je suis disponible. Mais sinon, je te rappelle.
Tu dis rien.
D'accord. Excusez-nous, en fait, tout ça, c'est un tout petit monde franc-maçon, juif.
Cosmopolite.
Cosmopolite, oh là là, ces finances nomades. Ouais. Alors, je ferme la parenthèse. Mais ce que je disais, c'est que c'est assez simple. Par exemple, quand vous voyez un ami à vous qui fait un beau dessin, vous allez vous dire, il est capable de faire ça, moi, j'en suis incapable. Par contre, raconter une histoire, dire comment j'ai passé mes vacances, tout le monde est capable de le faire. Après, on est d'accord que raconter une bonne histoire qui tienne son public en haleine, c'est autre chose. N'empêche que tout le monde est capable de dire qu'est-ce qui m'est arrivé hier. Ça veut dire que les outils pour raconter une histoire, on les a tous. C'est des outils très simples qui sont ceux qui permettent de raconter un souvenir, de dire ce qui s'est passé un week-end, de dire tiens, je vois telle émotion qui me traverse, je la raconte. Donc, à part quelques personnes, cela dit, ça existe vraiment, qui ont des problèmes simplement de phobie sociale, qui n'arriveront pas à communiquer avec les autres. Mais la plupart du temps, si on est à peu près équipé classiquement, on peut raconter une histoire. Donc la vraie difficulté, c'est comment on transforme ces outils qui paraissent très simples et qu'on a tous en le métier qui consiste à gagner sa vie en racontant des histoires. Et c'est là qu'il y a un saut qualitatif qui est pas évident. Et il se trouve, heureusement pour moi, que ce saut qualitatif, j'en étais pas conscient et que je me disais, oh bah, s'il y a des trucs à raconter, j'en ai. Et que sur ce domaine-là, qui est la bande dessinée, et ça m'a sauvé, j'étais un peu conno, je veux dire par là, je ne me rendais pas compte qu'il y avait des génies avant moi. Alors que dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique, j'en étais beaucoup trop conscient. Et c'est aussi pour ça que je n'osais pas me lancer. C'est que je me disais, mais qu'est-ce que je peux raconter en littérature après un Tolstoï, après maintenant un Elroy ? J'ai rien, enfin, je ne peux pas me comparer à des gens comme ça. Pareil en composition, par rapport à, je ne sais pas, le chanteur de Blur ou qu'importe. À chaque fois, je me disais, mais je suis une sous-merde en fait par rapport à ces gens-là. Je ne parle même pas du cinéma qui est resté pour moi le médium le plus intéressant. Ça le reste encore en partie, mais je vais y revenir, j'ai un peu changé d'avis sur la question. Du coup, la BD, bizarrement, était le seul endroit où je ne me suis pas posé la question de la légitimité de ma présence. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, si la BD, ça va, c'est facile, c'est un truc qu'on peut faire tous. Je ne voyais pas de génie, je ne pensais pas à l'époque, j'avais tort, mais je ne pensais pas que Goscinny était un génie. Je ne connaissais pas encore très bien Alan Moore, je ne connaissais pas des gens comme ça. Il y avait Christin qui m'impressionnait, mais ça m'impressionnait, mais pas au point d'avoir ce qu'on appelle la statue du commandeur, vous savez, comme dans Giovanni, cette impression que tout a été fait avant, en mieux, et qui m'a paralysé pour le reste, et qui, heureusement, dans la BD, ne m'a même pas traversé l'esprit. Je me suis dit, ben, si, en fait, écrire une histoire, oui, ça va, quoi, je sais faire, j'ai lu plein de BD, je sais le faire. Donc, juste pour dire que des fois, c'est bien de ne pas trop être trop critique de soi-même. Et malheureusement, ça peut être un frein pour des jeunes auteurs. Quand ils sont assez conscients des génies qui les entourent et des gens qu'ils ont lus. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est ça. Comment se positionner par rapport à des gens qu'on a énormément admirés et ne pas refaire ce qu'ils font. Voilà. Ça, c'est une vraie difficulté aussi de jeunes auteurs. J'aurais tendance à dire que c'est d'ailleurs le défaut principal des jeunes auteurs. C'est souvent de ressembler à des gens qu'ils admirent. Et c'est normal. Moi, ça, je me le suis pris un peu dans la tête justement quand j'ai commencé à présenter mes projets. En particulier, je connaissais personne dans la BD, hein, donc j'ai envoyé ça vraiment au hasard à tous les éditeurs avec des courriers. J'ai simplement fait en sorte que mes scénarios soient parfois un tout petit peu dessinés, pas bien, mais un peu en storyboard, pour qu'on comprenne plus facilement l'histoire et qu'on rentre dedans de manière plus aisée. Voilà. Mais ce n'était pas très bien dessiné. J'ai envoyé ça à tous les éditeurs, j'ai eu 2 à 3 fois des refus pour 2 ou 3 projets. Donc bah, ça, on encaisse, quoi. On se dit au début, ah merde. Est-ce que du coup j'avais pas raison de pas me lancer? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie maintenant d'essayer de le faire? Sauf que Et ça, c'était une première leçon. À chaque fois que je recevais des lettres de refus, je l'encaissais, c'était assez douloureux. Et dans la foulée, 3-4 semaines plus tard, je me disais, ah non, mais j'ai encore une histoire à raconter. Donc je vais encore essayer une fois. Et puis si cette fois-là ne marche pas, j'arrête. Puis je réessayais, puis on me les renvoyait avec un refus. Et je disais, ouais, alors c'était peut-être pas la bonne présentation, mais encore une fois. Et c'est là que j'ai commencé à voir que j'avais le cuir un peu plus dur que je ne pensais pour ce qui était des critiques sur le scénario. Je précise ça parce qu'en fait, ça c'est pour ceux d'entre vous qui se chercheraient, qui se disent, voilà, j'aime bien l'écriture, mais j'aime bien d'autres trucs. Moi, je le disais, j'avais aussi envie d'être compositeur, chanteur, j'avais aussi envie de faire du cinéma. Et j'ai un peu tout essayé. J'ai un peu fait des courts-métrages, j'ai un peu chanté avec un groupe, j'ai un peu, voilà. Et je me suis rendu compte que dans ces autres domaines qui comptent énormément pour moi, je continue à adorer la chanson, je continue à adorer le cinéma, mais je suis trop sensible. Ça peut paraître bizarre, mais si quelqu'un me dit à la fin d'un concert, « Oh, dis donc, bah, quelle merde !» Eh ben, je m'en relève beaucoup plus difficilement que si on me dit « Ah, j'ai lu ta dernière BD, c'est vraiment à chier, quoi. » Alors pourquoi ? Pourquoi il y a un domaine où j'accepte la critique et un autre où je ne l'accepte pas ? Je ne me l'explique pas. Je peux juste vous dire qu'il y a des domaines pour lesquels on a une passion. Moi, j'ai une passion pour la musique. Je sais par contre maintenant que ce ne sera jamais une passion professionnelle. Ça veut dire qu'il faut savoir identifier quand on débute si le fait d'être passionné par un sujet justifie qu'on soit professionnel de ce sujet. Et ce n'est pas la même chose. Je suis passionné de musique, je ne serai jamais professionnel de la musique parce que c'est trop violent pour moi de prendre une critique dans la gueule quand on parle de mon chant. Pourquoi ? Je pense dans le cas du chant que c'est trop personnel parce que c'est ma voix. C'est aussi con que ça. Que le fait qu'à un moment donné on me dise « j'aime pas ta voix » me donne l'impression qu'on me dise « je ne t'aime pas ». Ce qui en fait est faux, hein. Mais il se trouve que je n'ai pas réussi à faire le distinguo entre ma voix et moi. Dans le scénario, par contre, j'ai réussi à faire ce distinguo. Et je vais simplement citer une anecdote qui a pour moi été révélatrice de ça. À un moment donné, j'ai eu un rendez-vous, enfin, avec un éditeur qui était en fait le rédacteur en chef de Spirou. Donc pour moi, c'était très important parce que c'est une revue que je lisais beaucoup. Mes parents y étaient abonnés. C'était lié à toute l'époque Franquin, etc. Donc moi, j'ai été baigné dans la bande dessinée franco-belge. Et ensuite, je me suis ouvert au reste de la BD, mais j'ai commencé par ça. Donc je suis invité à Paris. J'ai mon premier rendez-vous. J'étais super content. Mais super flippé. Je reviens avec mon projet et Thierry Tinlot, qui est quelqu'un d'assez cash, pour ne pas dire des fois cruel, avec les jeunes qui voient venir. Après, il a fait Fluide Glacial, maintenant il est toujours dans la presse, mais je ne saurais plus vous dire où. C'est devenu un ami par la suite, hein, mais sur le moment, ça a été quand même assez violent. Il a pris son gros marqueur rouge, il a pris mes pages, il a fait alors voilà, ça c'est mauvais, ça c'est vraiment à chier, ça vu mille fois. Et il décortiquait ma page comme ça, case à case. Autant vous dire que je me suis démonté, mais vraiment, parce que sur le moment, j'avais l'impression qu'il était en train de me scanner moi et de dire « tu fais de la merde, donc tu es une merde ». Voilà l'association qu'on fait quand on débute, elle est souvent là. Elle est de se dire « on critique mon travail, donc on me critique, donc c'est très violent ». D'autant qu'en général, si on est auteur, si on a des velléités d'écriture, c'est qu'on a une sensibilité. C'est ça le paradoxe du lancement d'un jeune auteur. C'est que c'est un être sensible qui va d'un seul coup rentrer dans un ring où il va s'en prendre plein la gueule. Comment on fait ce passage-là ? Et une fois de plus, on n'est pas obligé de le faire, ce passage. Moi, dans la chanson, je n'ai pas eu envie de m'emmerder. Je n'ai pas eu envie de me faire des concerts, parce que j'en ai fait, hein, des concerts vraiment horribles. On se retrouve dans un bar où quelqu'un nous a mis dans un coin en disant « bon allez, vous pourrez faire ça là ». Sauf que personne dans le bar n'a envie de vous écouter, qu'il n'y a pas de sono du tout. Et que au moment où on s'installe, on dit « s'il vous plaît, on va faire de la musique », les gens vous regardent en disant « bah non, tu vas te faire foutre ». Je cite, hein, c'était mon premier concert. Mais je me suis dit « mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette vie-là » ? Bah non, pour le chant, non. Par contre, quand ce Tinlot me dit « voilà, t'as fait de la merde, ceci, ceci, cela », j'encaisse le truc en me disant « putain, mais ah merde, j'aurais dû faire du marketing, j'aurais dû rester dans le marketing ». Je ressors du rendez-vous, mais vraiment, mais démonté. C'est-à-dire que j'étais vraiment en train de me dire « j'arrête, quoi. Si c'est pour se prendre ça dans la gueule, c'est pas la peine ». 3 heures après, je suis allé voir un film, je ne sais plus quoi, pour changer les idées. 3 heures après, je ressors du film, je me dis « bon, j'ai quand même un autre projet que je peux peut-être lui présenter ». Pas celui qui m'a démonté, parce que ça, c'était au-dessus de mes forces. Je ne me voyais pas tenir compte de toutes les saloperies qu'il avait dit sur ce que j'avais fait, parce que c'était trop dur, quand même. Je veux dire, même en encaissant le choc et même en ayant une sorte de sagesse derrière, en disant « si, si, tu peux », des fois, c'est trop dur. Donc là, c'était un des premiers boulots que je lui présentais. Il m'avait dit un truc très juste, d'ailleurs. C'était dur, mais c'était juste. Il m'avait dit « on dirait que tu cherches à faire un truc pour Spirou. trop pour nous. Et du coup, ton truc, il m'avait dit, c'est, tu connais machin qui fait du sous-covin, bah, tu fais du sous-machin. Ça, ça avait été assez violent quand même. D'autant que ce que j'aurais voulu qu'il dise, c'est, tu connais Franquin, tu fais du sous-Franquin. Et ça, j'aurais éventuellement accepté. Mais machin qui fait du sous-covin et tu fais du sous-machin, c'était la pire insulte, parce que je vous cite même pas qui était machin, mais pour moi, c'était quand même assez violent. Mais il avait raison. J'étais en train de faire quelque chose qui était formaté avec ce que je croyais être l'attente du magazine. Il m'a dit, ah, rappelle-moi ton nom, c'est Velman. Bon, fais-moi du Velman. Fais-moi quelque chose qui te ressemble à toi, qui parle de ce que t'aimes, qui soit personnel. Donc ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et j'ai compris en réalité que j'étais encore en train de repousser l'obstacle, à savoir, en fait, j'avais fait un truc prévu exprès pour Spirou. Pourquoi ? Pour m'abriter derrière, en me disant, bah, finalement, s'il n'aime pas, ça n'est jamais qu'un projet un peu, pas de mercenaire, mais pas très loin, que j'ai fait exprès pour. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah, en fait, il y a un projet qui me tient vraiment à cœur, que je ne lui ai pas présenté. Et pourquoi je ne l'avais pas présenté ? Bah, parce que j'avais peur de le présenter, en me disant, si ça, il le démonte, ça va être peut-être encore plus violent. Sauf que je me suis dit, oui, mais tu ne vas pas tourner autour du pot toute ta vie, quoi. Donc, j'ai chopé cet autre projet, je l'ai présenté à Tinlot. Il a mis 6 mois à me répondre, 6 mois pendant lesquels je l'ai quand même harcelé de courrier en me disant, je veux une réponse. C'est oui, c'est merde, mais on m'envoie une réponse. Donc j'ai tenu. Et à la fin, il dit, ah non, mais en fait, je ne l'avais pas lu ton truc. Ah ben, en fait, c'est bien. Alors, ce que j'ai retenu de ça, ce n'est pas le côté éventuellement success story, genre il s'accroche et ça marche. C'est qu'en fait, c'était un projet que j'avais fait en même temps que celui qui m'a démonté. Et ça, ça me semble important à comprendre, c'est que quand on présente un projet, de fait, ça n'est pas soi, c'est une facette de soi qu'on décide de proposer, parce qu'on pense qu'à ce moment-là, le projet est bien de cette manière-là. Donc le premier s'appelait Laboratoire Caillou, celui qui a été démonté. Pourtant, le titre était magnifique. Et celui qui a été pris, mais qui d'ailleurs finalement n'a jamais été vraiment dessiné, mais enfin, c'est pas très grave, c'est ce qui m'a permis de rentrer chez Spirou, s'appelait Silver Damned. Les deux, je les avais fait en même temps. Simplement, il y en a un que je me sentais pas encore à préparer, Silver Damned, parce que j'avais l'impression que ça allait être mon grand truc et que je voulais le peaufiner, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui fait que la même personne présente un projet, se fait démonter, l'instant d'après en présente un autre, se fait accepter ? Bah, c'est bien la preuve que c'est pas moi qui suis jugé. C'est un projet. Et un projet peut être mal présenté, un projet peut être mal gaulé, il peut être pas bien emmanché. Ça dépend de presque rien. Si je devais faire un parallèle avec un jeu qu'on a tous connu gamin ou qu'on a vu, avec lequel on a vu les gamins jouer, vous savez, c'est ces jeux Duplo où il y a une forme, un trou avec une forme, il faut faire rentrer l'objet qui a la même forme. Donc le gamin va passer des heures à essayer de faire rentrer un triangle dans le bon trou, c'est un triangle, mais il est juste décalé d'un demi-centimètre et ça ne rentre pas. Ben pourtant, c'est la bonne forme, il a raison de persister, simplement il faut qu'il tourne un peu et enfin ça rentre dans le truc. Ben, pour moi, c'est un peu ça des fois. Dans certains cas, on a tout ce qu'il faut en soi, simplement on n'a pas encore trouvé la manière de le présenter. Donc ça peut permettre d'encaisser un peu mieux les critiques des fois en disant je ne dois pas forcément me pendre parce qu'on vient de me rejeter, parce que ce n'est pas moi qu'on critique, c'est ce projet. Et je dois garder une distance par rapport au fait que le projet, oui, peut être mauvais. Est-ce que Laboratoire Caillou était mauvais ? Honnêtement, avec du recul, moi je pense qu'il y avait des trucs à défendre parce que j'ai aimé le faire, donc j'y ai mis de moi-même et donc c'est quelque chose que j'étais prêt à présenter. Est-ce qu'il était suffisamment bon pour être édité ? Sans doute pas. Bon, ça faisait juste la différence. Donc j'insiste un peu sur cette partie critique pour ceux d'entre vous que le sujet peut concerner s'ils veulent écrire, parce que je crois que la réception de la critique et le fait de survivre à la critique, c'est un des points essentiels de l'écriture. On peut parler de style, on peut parler d'astuces d'écriture, tout ce qu'on veut, de dramaturgie, mais pour moi, ça vaudrait presque la peine de faire une session que sur l'accueil de la critique. Pourquoi ? Parce que pour moi, la différence entre un aspirant auteur qui a une chance de réussir et un aspirant auteur qui ne réussira pas, c'est comment il va accepter qu'on critique son travail et comment il va rebondir là-dessus. Et donc je donne des cours de scénario dans une petite école vers Chambéry, je passe énormément de temps à expliquer aux étudiants comment prendre les critiques qui leur sont faites, comment les encaisser et comment les utiliser. Donc déjà, le premier conseil, c'est de dire ne vous assimilez pas vous à votre projet. Si on critique votre projet, ce n'est pas vous qu'on critique, première chose. La deuxième, c'est de se rappeler qu'une personne qui critique un projet, c'est quelqu'un qui à la fois a un avis objectif sur votre travail, ça peut être un professionnel qui sait des choses que vous ne savez pas, mais il a aussi un avis subjectif, ce qui est évident, mais il vaut mieux le redire. Exemple tout bête, on va voir Gravity au cinéma avec des amis. Et ben, le groupe va sortir, on aura des avis différents sur un film. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire chef-d'œuvre, d'autres qui vont dire si c'est bien, mais quand même, il y a ça qui ne va pas. Pourquoi ? Alors que le film est ce qu'il est. Parce qu'on a, des goûts. Moi, j'aime bien, dans un récit, ce que j'aime bien, c'est en prendre plein la gueule, et puis de la 3D, ce film est parfait pour ça, j'ai adoré. Et puis un pote va dire, oui, mais quand même, le scénario n'est pas très épais, j'aurais préféré un peu plus d'eux. Bon, au final, qu'est-ce qui va faire que le film sera une réussite ou pas ? C'est statistiquement combien il y a de gens qui auront aimé. Mais on peut aussi imaginer qu'une œuvre va toucher très peu de personnes, mais les toucher de manière extrêmement forte. C'est pas la même réception. Donc, qu'est-ce qui est bien dans l'absolu ? Est-ce que c'est forcément le blockbuster qui va faire je sais pas combien de millions d'entrées, ou est-ce que c'est la petite œuvre qui va ébranler des gens ? Ben, j'ai pas de réponse à ça. Les deux sont bien, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est tout. Imaginons maintenant que la personne à qui vous présentez votre boulot dise ton machin avec des nains qui ont des épées géantes et qui se battent contre des dragons, clairement, c'est de la merde. Bon. Imaginons qu'ils disent ça. Peut-être que ce type, c'est juste qu'il déteste l'heroic fantasy, et encore plus l'heroic fantasy avec des nains et des dragons. Donc comment distinguer la part d'objectivité et la part de subjectivité ? Si c'est un professionnel de la profession, il est censé ne donner un avis que objectif. Parce qu'il est censé être éditeur, ou auteur, ou prof, s'il fait partie d'une école. Sauf que l'expérience montre que même un professionnel a une part subjective qu'on ne peut pas enlever et qui peut simplement ne pas adhérer à votre projet qui cependant pourrait être un bon projet. Alors comment on distingue je vais prendre l'exemple de Thierry Tinlot. Thierry Tinlot, on n'avait pas du tout les mêmes goûts artistiques. Je lisais le magazine, je me disais mais comment il a accepté telle ou telle merde et il me refuse. Alors au début je me drapais dans ma dignité en disant genre mais comment hostile enfin là c'est la partie auteur romantique qui cherche une falaise face au vent. Je l'ai fait beaucoup hein, donc je sais très bien ce que c'est. En faisant genre « Ah, mais je suis incompris, comment hostile ce gros relou ?» Et c'est vrai que j'aimais pas ses goûts. Sauf que quand il m'a dit « Tu fais du sous-machin, tu devrais faire du Velman », là, il avait raison. Donc il y avait bien une partie de conseils professionnels que je pouvais prendre. Si je rejette tout en disant « C'est un gros relou », je passe à côté d'une partie de la leçon. Donc, la façon qu'on a de se prémunir de ça, c'est de multiplier les critiques. C'est ce que j'appellerais, si vous faites de la navigation, c'est comme on appelle ça une triangulation. C'est que pour savoir où on est, il faut au moins 3 points de repère. Pour moi, c'est vrai d'un boulot. Si vous n'avez pas au moins 3 ou 4 ou 5 personnes qui vous donnent un avis dessus, vous ne saurez pas vraiment ce que vaut votre travail. Parce que si vous ne le montrez qu'à une personne et que cette personne déteste l'heroic fantasy, sans le même en être consciente, si ça se trouve, votre boulot d'heroic fantasy ne sera pas bien jugé. Si vous montrez votre boulot à 3 ou 4 personnes et que ces personnes, il y en a une qui dit... C'est pas mal ton truc, j'aime bien, mais alors la fin, elle tient vraiment pas la route. Et puis, il y a un truc qui est super, là, une scène avec le dragon, j'ai bien aimé. Le deuxième qui dit, j'ai adoré, génial, super, de bout en bout. Et peut-être juste la fin un peu, mais c'est vachement bien. Un troisième qui dit, c'est de la merde, alors le pire étant la fin, quoi. Bon, vous commencez à voir apparaître, peut-être entre les lignes, qu'il y a peut-être un problème avec la fin, quand même, et que peut-être s'il y a 3 personnes qui vous le disent, c'est pas que un problème d'heroic fantasy ou pas. C'est qu'il y a un problème avec la fin. Donc ça implique d'être prêt à montrer son boulot à plusieurs personnes. Ce qui implique justement, et je reviens à mes précautions de départ, d'être prêt à encaisser un peu. Et c'est là que c'est compliqué quand on est un jeune auteur. Qu'est-ce qui fait que j'ai repoussé le plus longtemps possible le fait de présenter mes boulots ? C'est que j'étais pété de trouille à l'idée de le faire lire, même à des amis, même à des proches, encore pire, même à des amis, à des proches. J'ai fini par arriver à le faire quand je me suis lancé dans le grand bain en me disant « Bon, quitte à me faire démonter la gueule, je préfère que ce soit par des éditeurs. » Parce que comme ça, s'ils aiment, banco, s'ils n'aiment pas, c'est des éditeurs, c'est un peu normal qu'ils soient durs, quoi. Donc j'ai repoussé ça jusqu'au bout. Reste quand même qu'il a fallu que je rencontre plusieurs éditeurs et que j'ai plusieurs échos pour commencer à me rendre compte de ce qu'il y avait de vrai dans ce qu'il disait et de ce qu'il y avait de subjectif. Donc cette partie-là, elle est super importante. Et c'est un très bon test de résistance physique, plutôt physiologique en fait. Si vous n'arrivez pas, au bout de 3-4 fois, à supporter les critiques, c'est peut-être que ça doit rester un hobby. Et je ne jugerai jamais personne qui restera juste comme un passionné de quelque chose et qui ne gagnera pas sa vie avec. Je veux dire, ça n'a jamais été inscrit dans les astres que parce qu'on aime un truc, on doit gagner sa vie avec. C'est différent quand on ne sait faire que ça et que si on nous l'enlève, on meurt. Ce qui était un peu, moi, ce que j'ai fini par voir avec le scénario. Qu'est-ce qui fait que je me suis accroché alors qu'on m'en envoyait plein la gueule au début, mais comme tous les jeunes auteurs. On te le refuse, on te balance des scuds, on te dit que c'est de la merde. Mais je m'accrochais parce qu'en fait, je me rendais compte quand même que mon envie d'écrire était plus forte que ça. Donc ça a été un test génial. Et pourtant, je vous assure, je n'aime pas souffrir. Je n'aime pas qu'on me balance des scuds. Je n'ai pas pris goût à ça. Mais je me suis rendu compte que l'envie d'écrire était plus forte que ça. Ça a été un test génial. Et ça m'a permis de me dire, bah oui, en fait, j'ai envie d'écrire tout le temps. Et j'ai envie même d'être payé mal. Parce qu'au début, on est mal payé. Et je me suis dit, mais en fait, je pouvais avoir un super job avec mon école de commerce, mais j'aurais été malheureux. Et là, on a commencé à me donner... presque rien pour 2-3 trucs payés au lance-pierre pour Spirou, j'étais mais heureux comme jamais j'ai été heureux de ma vie. À l'époque, c'était en francs, je vous parle d'un temps. Voilà. Je gagnais au début, j'ai réussi quand je me suis installé à Paris, j'ai réussi à gagner à peu près 5000 francs par mois. J'ai pas tellement de souvenirs meilleurs que cette période de ma vie. Si, parce que maintenant je suis quand même très heureux, mais c'était énorme de pouvoir me dire le matin, je sais que je ne peux me payer qu'un café dans la journée, donc je vais bien choisir le café. Parce qu'après, je ne pourrais pas me payer plus de boissons. Mais quel kiff incroyable de pouvoir gagner ma vie avec l'écriture. Donc là, oui, je me suis rendu compte que j'étais prêt à avaler tout le reste pour ça. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Et si vous voyez que ça vous coûte... Moi, par exemple, j'aurais fait du chant, je le redis, ça aurait été affreux. Parce que j'avais le trac avant, parce que l'idée d'être sur les routes tout le temps, d'aller dans des petites villes, des petites salles et tout, ça me rendait malade. Ben non, ce n'est pas la vie que je voulais, quoi. J'adore le chant, mais je n'ai pas envie de ça. Je me respecte un peu trop pour ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, dans le scénario, je me respecte absolument pas. On peut me dire tout ce qu'on veut sur mes scénarios, je m'en fous, je dois écrire. Je m'en fous, c'est pas vrai. Mais je sais mieux accueillir cette critique. Et dernier conseil par rapport à la critique, il faut voir le moment où on encaisse la critique et le moment où c'est dur, parce que ça reste dur. C'est quand même une gifle. Hein. Quand on vous dit, même quand on aura beau dire, on a le cuir épais, tout ce qu'on veut, si quelqu'un vous dit à un moment donné, bah, ton album, c'est pas bon, ça fait toujours mal. Bon. La seule différence, c'est que maintenant, je ne cherche pas à lutter contre la souffrance. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, ah mais non, mais ne tiens pas compte de cette souffrance. Allez, relève-toi, c'est important d'entendre la critique, blabla. Oui, c'est important, mais quand même, pendant un temps, il faut encaisser physiquement et moralement cette critique. Et la comparaison que je donne, c'est de comparer ça à une mauvaise grippe. Une grippe, quand on l'a, on n'est pas en train de lutter dans le lit en disant, non, mais tu dois te relever. Non, on a la grippe. Donc pendant 3 jours, on est mal et puis basta, et on ne va pas lutter contre le sort, on dit bah, j'ai la grippe. Quoi. Donc pendant 3 jours, on lit des BD, on regarde des DVD, on boit du bouillon de poule et puis voilà. Et puis on se relève. Et bien une critique, c'est pareil pour moi. Imaginons que je lise, malheureusement, je lise une série de mauvaises critiques sur Internet. Parce que Internet en plus est vraiment génial pour ça, c'est qu'on prend tout en direct avec des gros trolls qui vous disent vraiment le fond de leur pensée. Ils n'y mettent pas énormément de diplomatie. Donc imaginons qu'on tombe vraiment sur une critique acerbe, la pire étant la critique acerbe intelligente, celle qui dit vrai. Et donc on se prend ça dans la gueule, on fait genre ah putain d'accord, ah puis il a raison en plus. Bon, pendant 3 jours, je ne suis là pour personne. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas que j'essaie de lutter contre le fait que j'ai les boules. Donc je me dis juste c'est 3 jours. Quoi. Donc j'attends que ça passe. 3 jours après, en général, je sais que je pourrais tenir compte de cette critique, voire même rebondir dessus. C'est pour ça que je ne fais pas du tout partie des auteurs qui n'aiment pas les critiques. Je parle de la profession de critique. Pour moi, ils ont un vrai rôle. Il est d'ailleurs assez peu fait en BD. Il est assez mal fait. Alors qu'en cinéma, je trouve qu'on a des bonnes critiques bien étayées. En BD, c'est souvent j'aime pas, malheureusement. Mais une vraie bonne critique faite par quelqu'un d'intelligent, c'est un cadeau énorme. Par contre, c'est un cadeau qui vous met HS 3 jours. C'est la particularité de ce cadeau. Mais si vous savez l'entendre, c'est le seul moyen de rebondir. Moi, les fois où des gens m'ont dit « Ah, ton truc, super, on a adoré », ça me fait plaisir, mais ça ne me ferait pas grandir. Quelqu'un qui, des fois, veut dire « J'ai bien aimé ton truc, mais il y a un machin que tu fais pas bien », et quand j'arrive à l'entendre et quand je me remets du moment douloureux, ça peut me faire vraiment changer ma façon d'écrire. Donc, j'insiste énormément là-dessus, parce que je me rends compte qu'en tant que jeune auteur, moi et les élèves que j'ai en cours de scénario, c'est le point compliqué. Souvent ils arrivent soit en refusant complètement la critique parce qu'ils disent de toute façon moi je suis bon, mais en fait c'est une façon de se protéger, hein, c'est qu'ils ont la pétoche, soit ils l'entendent tellement qu'ils se perdent. Il faut un mélange des deux, il faut aussi de l'orgueil quand on est auteur bien sûr, mais l'orgueil n'est pas antinomique du fait de se dire qu'on n'est peut-être pas encore au point. Moi je suis quelqu'un d'hyper orgueilleux, mais je suis quand même suffisamment futé pour savoir que je ne suis pas encore au point complètement, et heureusement ça me donne une marge de manœuvre derrière et de progression. Voilà. Donc je clôt ce très long sujet sur la critique, mais j'insiste là encore en disant j'ai vu passer tellement de très bons dessinateurs en école de dessin qui sont restés au même niveau première année, troisième année parce qu'ils étaient réfractaires à toute critique, que je me dis c'est du gâchis. Et inversement, j'ai vu des tâcherons, enfin des laborieux qui ont commencé durement, difficilement, qui ont entendu ce qu'on leur disait, qui ont avancé, qui ont continué et qui ont fini par faire une œuvre, par créer quelque chose. Et ils partaient 10 fois plus loin que les virtuoses. Donc ça permet aussi de se dire, la virtuosité, ça ne veut pas dire grand-chose. On a plus ou moins un talent, je me rends compte quand même que j'avais un talent de conteur, ça je m'en suis rendu compte après. N'empêche que je ne l'aurais pas travaillé, j'en aurais rien fait. Voilà. Donc cette chance, moi je l'ai eue, c'est grâce au magazine Spirou. Je faisais des petites histoires, j'avais des retours positifs, négatifs. C'est le gros avantage des formats courts, c'est qu'on peut très vite essayer des choses. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé beaucoup d'histoires courtes et en particulier une série qui s'appelle Green Manor que j'ai commencé dans les pages de Spirou avec un super dessinateur, Denis Baudard, et ça m'a lancé parce qu'à partir de là, les autres dessinateurs ont commencé à voir mon boulot. En fait, comme ils s'intéressaient au travail de Denis Baudard, qui est un génie, vraiment un génie du dessin franco-belge, j'ai eu la chance d'aller visiter les studios DreamWorks à Los Angeles. J'ai vu dans les ateliers de ces mecs-là des reproductions de Baudard géantes sur les murs, quoi. Sauf que c'est un type qui est compliqué, qui doute beaucoup de lui, paradoxalement, et qui du coup n'a fait que très peu d'albums. Donc en fait, quand il sortait un album, c'est un événement. Et il se trouve que j'ai eu la chance de sortir un album avec lui. Et de là, d'autres auteurs, dont Bruno Gazzotti, avec qui j'ai fait Seul, m'ont contacté et ont commencé à dire on a bien aimé ton travail, donc ça nous intéresse. Et donc là, la pompe est amorcée. Et du coup, il y a moins ce problème d'essayer de prouver à la face du monde qu'on sait écrire, qu'on a des choses à raconter. Ce qui est le moment très, très, très frustrant des débuts, où on a cette espèce d'intuition chevillée au corps. En tout cas, on a l'impression qu'on a quelque chose à partager, que peut-être on est doué et qu'on hésite vachement à y croire. Et le moment où ça commence vraiment à marcher réellement et qu'on rentre par la petite porte ou pas chez les éditeurs. Donc moi, c'est par le biais du magazine que ça s'est fait, que j'ai eu mes premiers albums. Et ensuite, je ne dis pas que c'était un long fleuve tranquille, mais on va dire que c'est un courant ascendant. Chaque nouvel album faisait connaître une facette de ma façon d'écrire à d'autres dessinateurs qui pouvaient me contacter. Et puis après, c'est des contacts qu'on a dans les festivals, etc. Voilà, bon, j'ai évoqué tout un très long préambule. Est-ce que déjà par rapport à ça, il y a des réactions, des questions que ça vous pose ou des précisions que vous aimeriez avoir? Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est plus dur maintenant de percer que par exemple de 1990 plein de BD qui sortent, parce qu'il y a plein de auteurs qui vont...
Alors je dirais que c'est peut-être plus facile d'être édité pour un premier album, c'est plus difficile de gagner sa vie avec. Grâce à la surproduction. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un âge d'or très très fort dont j'ai bénéficié, où ils pouvaient se permettre d'éditer plein de jeunes auteurs. Quand je disais c'est plus facile d'être édité la première fois, ça l'a été jusqu'aux dernières années. Maintenant, ça reste. En fait, la crise est là depuis 2-3 ans. Je ne sais pas comment vous le situerez en librairie, mais à quel moment on a vraiment senti dans les ventes que ça se tassait?
Il y a 3-4 ans, comme 2008.
Moi, je ne l'ai pas senti tout de suite.
Pas toi, mais nous, on a senti il y a 3-4 ans que les premiers albums ou des choses pas très connues avaient du mal. Le public réagissait beaucoup plus difficile.
Voilà. Alors, jusqu'à cette période-là, il y avait quand même une grande facilité. Il y avait une possibilité d'être édité en tant que jeune auteur, pas complètement au point. Alors qu'avant, c'est dans les magazines que ça se faisait, ça, cet apprentissage. Et une fois que c'était bon en magazine, on finissait par faire l'album éventuellement. Maintenant, c'est vrai que ce côté surproduction a un peu encaissé le coup de la crise et que maintenant, un éditeur, il regarde à deux fois avant de lancer quelqu'un. Donc oui, je dirais que c'est quand même un peu plus dur, que par contre, il reste toujours de la place pour des projets originaux avec une patte. Donc, il ne faut pas se poser la question dans le sens « est-ce que j'ai moins de chance ou pas ?» Je vais vous donner un autre exemple qui est celui de l'école de commerce. Alors, ça n'a aucun rapport, mais moi, ça m'a appris un truc. Quand on nous parlait du nombre de prix par rapport au nombre de postulants. J'ai fait mes études à Nantes, hein, du coup, donc à l'école de Nantes, par exemple. Il y avait 300 personnes prises après les entretiens et il y avait 10 000 personnes qui se présentaient. Donc, si tu regardes statistiquement, tu dis j'ai aucune chance. Dans les faits, c'était pas vrai parce que sur ces 10 000, il y en a qui vont aller ailleurs. Il y en a qui auront un meilleur poste, une meilleure école. Il y en a qui, en fait, sont pas du tout faits pour des écoles de commerce et devraient même pas postuler. Donc en réalité, ce n'est pas 300 chances sur 10 000. Ce n'est pas du tout de cette manière-là. Et c'est pareil, on aurait beau dire statistiquement, il n'y a peut-être qu'un projet sur chaque année de jeune auteur qui est pris chez tel éditeur. Ça ne voudrait pas dire grand-chose si c'est toi le jeune projet. Donc en fait, il vaut mieux pas trop se poser la question de ça que de la question de se dire est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer et combien de fois je suis prêt à encaisser des échecs. Parce que par contre, la ténacité va faire la différence. Ça, c'est évident. Si tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches, il y a quand même à un moment donné, ça peut payer. Après, on ne peut jamais le garantir, mais d'où l'intérêt aussi des produits, du plaisir à le faire. D'écrire, c'est avant tout une nécessité vitale, que ce soit pris derrière, c'est un bonus, mais avant tout, tu dois écrire. Moi, c'était ça, en fait. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que, je ne dis pas que ce n'était pas important d'être édité, mais que de toute façon, je devais écrire. J'avais des idées, il fallait que je les mette sur le papier, sinon elles me hantaient, quoi. Donc, si tu trouves du plaisir et que tu es prêt à encaisser des échecs, rien n'empêche de faire ça très longtemps et que ça, on ne sait jamais sur un malentendu, comme on dit, que ça puisse finir par marcher, quoi. Mais je dirais que c'est quand même un peu plus dur. Ouais.
On peut dire une chose, hein, tous ceux qui n'ont pas essayé n'ont pas réussi.
Voilà, quoi qu'il en soit, c'est ça. Et là encore, il vaut mieux essayer et se planter que de se dire... Moi, honnêtement, je m'étais vraiment dit ça texto. Je me dis, s'il y a 40 ans, je me dis, j'aurais dû faire de la BD il y a 20 ans et que j'ai un regret, je vais me tirer une balle. Mais vraiment, je me dis, ça ne va pas être possible. Donc, j'ai préféré me planter. Et pareil pour le chant, ça m'aurait fait chier de ne pas essayer. Sauf que le chant, je le redis, je me répète beaucoup, vous l'aurez compris. Le chant, c'est ma passion, mais ce n'est pas ma passion professionnelle. Voilà. Si ça répond à ta question. Peut-être pas de la meilleure manière possible. Quand je dis oui, c'est un peu plus dur, mais là encore, c'est plus dur, mais c'est toujours possible. Là encore, un éditeur n'attend qu'une chose, c'est de tomber sur un chouette projet original. Alors, ça m'amène à un autre sujet. Je disais donc le défaut de jeunes auteurs que j'ai eu, qu'ont la plupart des jeunes auteurs, c'est qu'ils font du sous-machin. Et c'est vrai en dessin, c'est vrai en scénario. Ça se voit plus dans le dessin, parce que les codes de dessin sont plus facilement repérables. Franquin a produit une infinité de sous-Franquin parce qu'il était génial. Tous les auteurs de la nouvelle bande dessinée, les Blin, les Sfar, ont produit une infinité de sous-Blin, sous-Sfar. Mignola aux États-Unis a produit une infinité de sous-Mignola parce que leur dessin est tellement bon, tellement bien pensé, ils ont tellement su synthétiser le réel qu'on se dit mais oui, c'est ça. En fait, c'est tellement évident. C'est comme ça qu'il faut faire. Sauf qu'en réalité, ils ont eu d'abord un travail de digestion du réel. Donc le premier défaut de jeune auteur, c'est de se référer à ses mentors, aux choses qu'il a aimées, et c'est normal, et c'est formateur de le faire. Mais la vraie difficulté, c'est de se dire à un moment donné, je fais abstraction des génies que j'adore et auxquels j'ai envie de ressembler, et je vais m'intéresser au réel. Donc premier conseil qu'on donne à un jeune dessinateur, mais en fait c'est vrai d'un jeune scénariste, c'est... travailler d'après nature. Alors même qu'on peut être en tant que dessinateur fan de Mignola, ne surtout pas garder le nez dans un livre de Mignola, mais juste se dire je vais dessiner des choses, tout, n'importe quoi. Je dois faire une chaise, je vais dessiner cette chaise ici précisément. Et si par exemple je la regarde à l'instant, je me rends compte que la chaise qui est ici dans cette salle ne ressemble pas si je devais faire la manière dont moi je dessinais. Si je pense une chaise, je vais la penser d'abord mentalement en me disant bah, c'est à peu près un truc comme ça. Je vais faire une sorte de vague perspective histoire de dire il y a des pieds et c'est une chaise. Alors oui, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout la chaise qui est ici. Ce n'est pas du tout l'espèce de fauteuil dans lequel on est là. C'est-à-dire que là, j'ai dessiné l'idée d'une chaise. Or, quand on fait une BD, quand on fait une illustration, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans les idées de Platon, de la caverne de Platon, genre l'idée pure de la chaise, l'idée pure du visage. Dans quel cas, l'idée pure du visage, je peux dire c'est ça, j'ai un visage, mais c'est qui, c'est quelle personne. Alors c'est vrai que si je vais chercher un visage croqué par Mignola, il sera déjà très synthétique, très efficace, donc je vais récupérer certains de ses codes, je sais pas, des sourcils comme ça, une mâchoire carrée comme ça, je fais n'importe quoi, je suis pas dessinateur, des cornes comme ça, et je vais faire une sorte de sous Hellboy. En réalité, là encore, le truc qu'il faut éviter, c'est justement ça, d'aller chercher ce que d'autres ont déjà fait très bien. Si par contre vous vous dites, eh ben, je vais essayer de faire un visage qui ne sera pas bien fait, mais qui va ressembler un peu plus à quelqu'un qui est devant moi, donc je prends le temps d'être devant cette personne, je prends le temps d'essayer de vraiment faire son visage, et je mets de côté mon petit critique intérieur, c'est ça le plus difficile, parce qu'au début on dessine comme de la merde, il faut quand même être un peu clair, quoi. Si j'essaie de faire un dessin d'un visage de quelqu'un parmi vous, alors que je ne suis pas dessinateur, ça va être horrible. En plus, c'est gênant par rapport à la personne qui est en face. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur de le faire avec des amis. Une chaise, c'est mieux. Mais il faut arriver à mettre de côté le petit critique qui dit « mais c'est mauvais » et il faut le recommencer. Et je refais un autre visage, une autre chaise et une perspective foireuse et un cactus nul. Et ça pendant des heures, des heures et des heures. Et c'est ça, c'est un des trucs difficiles quand on est critique avec soi-même. Or, il faut l'être un peu. Je parlais d'accepter la critique des autres. on a aussi souvent un propre critique intérieur qui est souvent d'ailleurs pas piqué des hannetons. Enfin, moi, en tout cas, c'est le pire. Celui qui me juge le plus, c'est pas mes potes, c'est pas mes éditeurs, c'est pas mes dessinateurs, c'est moi. Et c'est un des trucs qui m'a freiné dans ma constitution de scénariste, c'était justement de me dire, mais c'est jamais assez bon ce que je fais. Enfin, c'était un mélange, pour être précis. C'était des moments de mégalomanie absolue où je me disais, waouh, là, je crois que ce que j'ai fait, jamais personne ne l'avait fait avant moi. Contrebalancé par des moments où je me dis, je suis vraiment qu'une merde. Et souvent, un auteur, c'est un peu ça. Enfin, la plupart des auteurs que je connais, c'est un mélange des deux. Et parfois, on voit plus un de leur côté ou plus un de l'autre. Mais la plupart des auteurs hyper narcissiques, mégalos que je connais, en réalité, cachent des abîmes de doutes. Ils les cachent d'autant mieux qu'ils essaient de montrer qu'ils sont sûrs d'eux. Mais en réalité, un auteur, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un à la fois qui a une prétention et à la fois qui a d'énormes doutes par rapport à cette prétention. Et c'est très bien d'avoir les deux. Si vous dessinez, par contre, au moment où vous dessinez, il faut laisser de côté cette critique. Il faut se dire, je vais juste apprendre à le faire et le refaire et le refaire. Et en scénario, c'est un peu pareil. Alors, c'est difficile de comparer parce que ça serait quoi l'équivalent de faire du nu ou de faire du croquis d'après nature en scénario ? Ça n'existe pas, c'est pas la même chose. Par contre, ça serait de se dire qu'au lieu de créer un personnage dans ma BD qui sera inspiré de Bruce Willis dans Piège de cristal parce que j'ai adoré ce film, ce qui était typiquement ma façon d'écrire au début, c'est de me dire, je vais m'inspirer de quelqu'un que je connais, qui n'est pas Bruce Willis. Et alors du coup, c'est je vais tenter de faire du crobar mental de cette personne. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est comment saisir une personnalité en quelques coups de crayon. Finalement, le dessin, c'est ça. L'exemple que je montrais avec le smiley, c'est la version la plus épurée d'un visage. Et à l'autre bout du spectre, on peut imaginer un visage où je vais commencer à le dessiner avec vraiment, par exemple, un œil très précis, avec l'iris, avec la pupille, avec le coin de l'œil, avec le sourcil, avec les cils. Et combien de temps je vais passer à faire un œil dit réaliste ? Je peux lui passer un temps infini. Le visage, ça sera pareil. Où est-ce que je situe le curseur par rapport à ce dessin méga réaliste et un smiley qui peut finalement être hyper efficace ? Si j'ai envie juste moi de faire une expression comme ça où on voit un mec qui va commencer à gueuler. Bon ben voilà, à la limite c'est assez expressif. Ça ressemble à personne, mais c'est expressif et si mon scénario n'a besoin que de ça, ça va. C'est quoi l'équivalent de ça avec du scénario ? Ben oui, je peux aller chercher la version réaliste d'une personne, c'est-à-dire être capable de décrire son enfance, tout ce qu'il mange le matin au petit déjeuner, chacun des détails de sa vie. Inversement, je peux décrire une personne, l'équivalent smiley, en un adjectif. Je peux dire, c'est un connard. Ou, ah lui, il est génial. Ben voilà, on a, on a tout le spectre possible. Et d'ailleurs, cette question de jusqu'où on va dans la finition, la définition d'une personne, c'est exactement des questions qu'on se pose quand on n'est pas narrateur professionnel, mais qu'on raconte juste son week-end. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien faire la différence entre un mauvais conteur et un bon conteur à sa façon de raconter son week-end. Quelqu'un qui va vous dire « Ah, attends, il faut que je te raconte mon week-end à Chamonix. » Alors, bon, ce qui était super, bon, il y a eu tout cet embouteillage d'abord. Attends, non, j'oublie. Alors voilà, ça a commencé à Paris. Parce que, alors, tu sais, il y avait cette panne d'ascenseur chez moi et tout. Et ça continue comme ça. Et vous êtes en face en train de faire « Mais putain, mais quand est-ce qu'il va fermer sa gueule ?» Parce qu'en fait, il ne sait pas raconter. C'est-à-dire qu'il se perd dans une multitude de détails, il part dans tous les sens. Ce qu'il dit est vrai, c'est réaliste, ça lui est arrivé. Donc, voilà. Mais on est dans une sorte de sur-détail de la narration. Inversement, quelqu'un peut faire deux, trois traits, raconter ce qui s'est passé. Genre, il va vous accrocher. Attends, j'ai un truc hallucinant à te raconter. Donc, déjà, un petit peu d'intérêt. Tu sais, machine que tu trouvais un peu chaudasse. Deuxième centre d'intérêt. Hein, quoi ? Oui, quoi ? Et puis, petit à petit, il s'est passé ça. Et à la fin, bim, il y a une chute. Et donc, c'est en quelques traits bien choisis, on a une vision du week-end à Chamonix qu'on aurait pu, sinon, pu raconter pendant 6 heures. Et on voit qu'un des récits, en général, est un peu plus efficace que l'autre. C'est pour ça que je compare ça à de la caricature. Un récit, une narration, c'est comme le choix de quelques traits qui montrent une image. On peut choisir de faire une histoire longue. On peut passer un roman, on peut passer 6 tomes sur une seule et même personne dont on va fouiller la psychologie. C'est un choix. On peut le faire très bien. Comme on peut faire une caricature d'une personne en deux traits. Ça dépend de ce que vous voulez raconter comme histoire. Donc après, c'est une question de curseur. Moi, il y a des fois, j'ai envie d'à peine évoquer des personnages parce qu'en réalité, ce ne sont que des rouages dans mon histoire. Je vais les caricaturer en deux adjectifs. Je me dis, machin, j'en ai besoin pour mon histoire parce que j'en ai besoin pour raconter une histoire criminelle, le Green Manor. Mais fondamentalement, j'ai que 7 pages. Et ben, je vais dire, le Lord Wilson, il est arrogant mais très intelligent. Imaginons que ça soit que ça, et j'ai besoin que de ça. Bah, très bien, pour mon histoire, ça suffit. Pour un 46 pages, il va peut-être falloir que je creuse un peu plus et que j'aille chercher sans doute un modèle réel. Pour mon smiley, j'ai besoin d'aucun modèle réaliste. Pour un vrai modèle de personnage humain qui existe, j'ai intérêt à me référer à des choses qui existent. Et là encore, le problème, c'est que souvent, on va chercher des choses déjà digérées quand on est un jeune scénariste. Moi, j'allais chercher Bruce Willis dans Piège de cristal, ou si ça peut être quelque chose d'un petit peu plus intellectuel quand même, ça sera genre, je sais pas, je vais aller retrouver un personnage de Godard que j'ai adoré. Reste que c'est des choses déjà digérées par d'autres gens. Donc, autre conseil par rapport à ça, que ce soit pour le dessin ou pour la narration, s'inspirer de choses qu'on connaît, auxquelles on peut se référer. Alors après, on peut jouer avec ça. Bien entendu que ça reste de la création de fiction, bon, en ce qui me concerne. Donc, quand par exemple dans la série Seul, j'avais besoin de personnages, je me suis parfois inspiré de plusieurs personnes pour faire un seul personnage. Typiquement, le personnage de Camille, une petite fille blonde un petit peu timide, un petit peu naïve, qui est dans la série Seul, je me suis inspiré en partie d'une de mes sœurs, en partie d'une personne avec qui j'allais chanter dans un chœur. Parce que c'était une nana assez géniale, parce qu'à chaque fois qu'on lui racontait une histoire, elle y croyait au premier degré. Et du coup, c'était assez joyeux, parce qu'on pouvait raconter plein de trucs. Et elle disait « Ah, mais quand même, c'est incroyable !» Et non, mais en fait, je suis encore en train de te raconter des cracks. Mais c'était sans fin, on pouvait vraiment lui raconter ce qu'on voulait tout le temps, c'était génial. Et puis ma sœur, pour le côté très sensible, il y a une scène dans Seul où on voit qu'il y a un requin dans un bassin, et puis il jette un chien pour le nourrir. Puis elle fait « Ah, mais on peut pas faire ça, le chien, il va mourir !» Puis quelqu'un dit « Bah oui, mais c'est ça, où le requin, il meurt. » Et on la voit d'un coup complètement pétrifiée, cette pauvre Camille, parce qu'elle se dit « Mais le chien, le requin, enfin, c'est horrible, c'est trop injuste, quoi !» Et ça ressemble assez à ma sœur, qui, quelque part, reste constamment révoltée par l'injustice du monde, en fait, par le côté « Mais merde, des animaux bouffent d'autres animaux, c'est affreux !» Et c'est un peu vrai de ce que je peux croire, moi, d'ailleurs, il y a une partie de moi que ça révolte. Mais ma sœur le caractérise encore plus. Alors, bon, vous voyez, on ne m'arrête pas, je suis en train de faire un esprit d'escalier. On ne va pas continuer tout le temps. Ouais. Mais juste pour dire aussi, et ça sera peut-être le dernier conseil avant dernière question si vous voulez, je viens de dire aussi qu'il y a une partie de Camille que je peux comprendre. Ça aussi c'est important. C'est que quand vous allez dessiner un personnage, souvent les dessinateurs non seulement s'inspirent des gens autour d'eux, vont faire du croquis de nu, d'anatomie, vont dessiner une perspective, un bâtiment, mais la plupart de mes potes dessinateurs se regardent dans un miroir. Et en fait, se crobardent selon l'expression qu'ils ont. Ils veulent la peur, ils vont mimer la peur, ils vont se dessiner. Et ben, un scénariste, c'est aussi ça. Il y a une part de recherche que vous allez faire autour de vous. Donc, soyez attentifs aux gens qui vous entourent, notez des expressions, des façons d'être, des psychologies de personnes, en fait. C'est-à-dire, en gros, les rouages avec lesquels ils se dépatouillent dans la vie de tous les jours. Mais gardez en tête aussi que, logiquement, vous avez en vous tous les moyens de comprendre tous les personnages, même les pires. Dans Seul, il y a certes 5 personnages, mais chacun de ces personnages est une facette de ce que je peux être à certains moments de ma vie. Il se trouve que je ne le suis pas tout le temps, mais je le suis parfois. Yvan est le personnage qui me ressemble le plus spontanément. Il est un peu lâche, il a beaucoup d'imagination, c'est très facile pour moi de l'animer. Camille, c'était la partie de moi qui peut comprendre ma sœur quand elle est révoltée par l'injustice du monde. C'est-à-dire que oui, si je gratte un peu, moi aussi ça me choque de me dire que mon chat si mignon doit manger cette souris si mignonne. Il y a une partie de moi qui se dit non, mais c'est. Mais. Non, bah non, non. Voilà. Sauf que je la refoule la plupart du temps. Doji est la partie de moi qui est en colère. Au début, je me disais Doji, c'est une création de fiction, ce personnage qui a pas de parents, c'est pas moi. Et puis, en faisant une psychanalyse, donc en apprenant sur moi, ce qui est un très bon outil de compréhension de l'être humain, soit dit en passant, je me suis rendu compte que Doji était la partie de moi qui détestait les adultes. Et que donc, quand je faisais écrire à Doji, on ne peut jamais faire confiance aux adultes, c'était quand même bien moi qui le disais, mais moi, quand je suis en colère. Et puis, Leïla, qui est un personnage un peu de garçon manqué, alors ça peut paraître paradoxal quand je vais dire ça, mais est ma partie de garçon manqué. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, je suis un garçon, puis à la fois, j'ai un côté bizarrement garçon manqué dans ma façon d'être. Il y a une fois où j'avais dit ça à quelqu'un en disant... en fait, moi, je suis une lesbienne dans un corps d'homme. C'est-à-dire que je vais quand même plus kiffer les nanas, mais je me sens comme une sorte de garçon manqué à l'intérieur d'un corps de mec. C'est assez bizarre. D'ailleurs, vous avez le droit de méditer ça en disant il est quand même vraiment bizarre. Mais il y avait un peu de ça. Leïla est la partie de moi. C'est un peu une autre de mes sœurs qui est un peu garçonne, mais c'est aussi une partie de moi qui sans doute est un peu féminine, mais pas complètement. C'est assez paradoxal. Donc, quand vous écrivez, quoi qu'il en soit, vous pouvez vous dire que vous avez en vous le potentiel de comprendre tous les personnages, tout le monde, même les pires salopards. Ça, par contre, il faut avoir la lucidité d'aller chercher ça en soi. C'est ce que disent souvent les auteurs. C'est qu'on est a priori capable, même si on n'est pas d'accord avec un personnage, on est a priori capable d'aller chercher en nous la partie qui pourrait le comprendre. Ça, pour moi, c'est le défi que doit mener un auteur. Et c'est là qu'il y a une partie assez noble et que je trouve intéressante. C'est de pouvoir défendre même l'indéfendable. Ça ne veut pas dire que vous allez l'excuser. Vous pouvez écrire un personnage en disant ce qu'il fait est inexcusable, mais vous pouvez essayer de comprendre pourquoi il le fait. Et ça, c'est ce qui fait, à mon sens, la partie vraiment passionnante de l'écriture. Et c'est encore un autre sujet hyper vaste. Je crois quand même qu'il est 37. Est-ce que vous avez des questions ou ça peut se prolonger aussi de manière plus informelle après, en sortant? À moins que vous partiez tous très très vite d'un coup, parce que je vous ai fait peur avec, avec ma vie sexuelle, ce que je peux comprendre. Non, pas d'autres questions? Oui.
Sur le tome 7 de Seuil, il y a plus de pages que d'habitude. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a ce nombre de pages le plus important?
Alors ça, c'est la chance de travailler avec un éditeur qui a cette souplesse-là quand la série marche. D'habitude, c'est 46 pages, le format classique d'un album franco-belge. Il se trouve que dans la série Seul, où je suis comme dans ma vraie vie bavard, vous l'aurez noté, j'ai besoin parfois de plus de place. Et que donc il est arrivé dans certains des albums de la série qu'on se dise d'un commun accord avec l'éditeur et le dessinateur que ça méritait qu'on rajoute un carnet de 8 pages. Dans le cas du tome 7, il y avait une difficulté supplémentaire, c'est qu'on avait fait un concours assez rigolo, mais qui venait du marketing, mais je trouve que c'était une bonne idée, qui était de faire un concours auprès des enfants, et les enfants qui gagnaient apparaissaient dans la BD. Ce qui voulait dire par contre que moi je rajoutais des personnages un peu inattendus dans le récit, et que donc si je voulais pas que mon récit soit complètement compressé, 8 pages de plus c'était quand même pas mal. Et en plus c'est un album où il y a beaucoup de rebondissements et puis des enfants zombies, c'est très bien de laisser de la place aux enfants zombies, on le dit jamais assez. Ça a fait pareil pour le tome 8, hein, cela dit, où il y a 8 pages de plus parce que l'éditeur et le dessinateur m'ont dit que un album qui s'appelle Les Arènes où il n'y a pas assez d'épreuves et que les épreuves sont un tout petit peu trop faciles, parce que mon premier jet c'est ce qu'ils m'ont dit, ça allait pas. Donc ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas rendre ça un peu plus sadique? Je dis, pas de souci, mais vous me donnez 8 pages de plus, ce qui m'a permis d'inventer des épreuves de fait assez sadiques. Donc c'était mieux. Donc en gros, on se le permet parce que la série marche aussi, que donc l'éditeur ne va pas le vendre plus cher, mais va perdre un peu d'argent. Parce que c'est quand même 8 pages de plus multiplié par 100 000 exemplaires, en gros maintenant. Donc c'est quand même, il y a un manque à gagner. Ouais, il y a un coût, mais quand il pense que ça vaut la peine pour la série et que l'album sera meilleur, il l'accepte assez volontiers.
Bon, bien. Ce sera la fin du cycle 2, le tome 8 ?
Non, le tome 8 est un tome, à mon goût, voilà, pour parler de l'aspect critique, à mon goût un peu trop explicatif et un petit peu trop Kougloff. J'appelle ça l'effet Kougloff, c'est-à-dire que mes lecteurs me disaient que je donnais pas assez de réponses à plein de mystères mystérieux, ce qui est vrai, c'est un peu l'ADN de la série. Et du coup, je me suis dit, allez, là, j'essaie d'en mettre un peu plus, et qui plus est, j'essaie de mettre les lecteurs dans la même situation que les enfants de la série, à savoir qu'ils arrivent dans une nouvelle ville, il y a 10 000 informations à la fois, donc j'aimais bien que ça soit un peu too much. La contrepartie, c'est que je trouve que c'est un album pas élégant, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, on passe très vite d'une scène à une autre, ça m'a un peu frustré. Donc le tome 9, qui va clore le deuxième cycle, à mes yeux, est plus élégant. Il y a moins de personnages, c'est sur des paysages enneigés. J'ai promis à Bruno d'arrêter les nouveaux décors, ce qui a failli péter un câble. Beaucoup moins de personnages, beaucoup moins de décors, plus recentré sur les personnages, et surtout sur l'intrigue, et pour ceux qui connaissent la série, cette notion d'enfant minuit qui serait plus ou moins un élu du mal. Je laisse entendre qu'il y a un élu du mal parmi les héros. Donc dans le tome 8, on laisse entendre que peut-être ça serait la toute petite enfant Lucie. Dans le tome 9, on va voir que c'est un peu différent de ce qu'on pouvait croire. Et ça va, logiquement, ça relance la perspective sur la série vers autre chose. Enfin, je pense. En tout cas, moi, je suis assez content de ce tome 9 parce que on est dans le vif du sujet, dans ce que je voulais raconter en réalité depuis le début, à savoir, ah oui, tiens, les apparences sont parfois un peu trompeuses et que peut-être, oui, un des 5 personnages a un rôle très, très différent de ce qu'on pouvait croire. Donc ça, c'est assez passionnant. Je suis très content du tome. J'espère que vous partagerez cet avis, parce que Bruno ne l'a pas encore dessiné.
Bon, ben merci Fabien.
Merci de votre patience.